Bonjour Sophie Divry.
Bonjour.
Voilà, vous êtes la lauréate du prix Jean Amila Mecquer 2021, prix de littérature d'expression populaire et de critique sociale décerné à Arras par le département du Pas-de-Calais, l'association Colère du Présent. Prix décerné le 1er mai à l'occasion du Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale, salon qui fête sa 20e édition cette année, mais dans des conditions qui ne se prêtent pas vraiment à la fête, puisque pour la deuxième année consécutive, le salon se déroulera à nouveau sous un format virtuel, en ligne, comme on dit. Alors nous sommes très heureux à Radio PFM de pouvoir néanmoins échanger avec vous, Sophie Divry. Nous serions encore plus heureux, bien entendu, si nous avions pu le faire en vrai et en public, comme nous le faisons habituellement le 1er mai au Salon du Livre, et notamment avec les lauréats du prix Amila Mecquer. On espère se rattraper à l'automne, ou si les conditions le permettent, un rendez-vous en vrai, comme on dit aussi, devrait pouvoir être organisé autour du prix Amila Mecquer, et donc de 5 mains coupées. Votre livre, le livre primé cette année, un livre particulier, nous y reviendrons, qui n'est pas un roman, qui n'est pas une fiction, mais qui s'inscrit pleinement dans les littératures d'expression populaire et de critique sociale. Avant cela, Sophie Divry, quelques mots de présentation. Vous êtes née en 1979, je ne révèle rien, je me réfère à la quatrième de couverture de votre livre. Vous êtes diplômé de l'ESJ de Lille et de l'IEP, Institut d'études politiques de Lyon, et vous avez déjà publié 6 ouvrages avant 5 mains coupées. 5 mains coupées paru en octobre dernier, et puis depuis d'ailleurs un 8e livre, Curiosity, est sorti. Alors, Sophie Divry, lyonnaise, journaliste, écrivaine, comment vous définissez-vous ?
Écrivaine lyonnaise, oui, si vous voulez, absolument. Journaliste un peu moins quand même, parce que j'écris principalement de la fiction depuis 10 ans. Mais là, c'est vrai que c'est un bouquin qui doit quand même pas mal à ma formation de journaliste. Disons qu'il fallait quand même pouvoir recueillir le matériau de base à partir duquel j'ai construit le livre. Mais écrivaine, oui, c'est très bien.
Alors, donc un passage dans le Nord quand même, pour vos études, notamment alors, votre formation de journaliste.
Oui, j'ai passé 2 années scolaires à Lille, pour l'ESJ, en effet. Mais c'était trop court, 2 années dans le Nord, c'est pas assez.
Oui, donc un souvenir, un bon souvenir de...
Oui, un bon souvenir de découvrir cette région.
Voilà, et donc, oui, alors bon, je le disais, ça apparaît aussi en quatrième de couverture, écrivaine, donc vous considérez, c'est votre activité principale aujourd'hui ?
Oui, dans la mesure où c'est mon activité principale, j'ai la chance de pouvoir faire que ça pour l'instant, ou faire des activités extérieures, mais toujours liées à mon statut d'écrivain. Du coup, je peux me définir comme écrivain, mais c'est pas vraiment un statut, quoi. C'est plus une activité qu'un statut social. Mais moi, je n'ai pas une double vie. Pour l'instant, Inch'Allah, je dois pas avoir un travail à côté. Donc, je fais partie de ceux qui ont la chance de pouvoir vivre de leur plume, comme on dit.
Alors, avant cela, quand même, vous avez exercé comme journaliste ?
Oui, j'ai exercé comme journaliste, un petit peu comme ça, de manière précaire, et après de manière plus stable au journal La Décroissance en presse écrite. Donc, c'est un journal anti-productiviste qui est toujours basé à Lyon, 5-6 ans. Voilà, mais après, bon, c'est vrai que j'ai toujours voulu être écrivaine, et après avoir un peu fait le métier auquel il fallait bien, faut bien trouver un métier dans la vie. Après, je me suis remis à écrire vers l'âge de 30 ans, et du coup, au fur et à mesure, ça a pris toute la place. Voilà.
Alors, vous avez déjà figuré deux fois, enfin deux de vos livres ont déjà figuré dans la sélection finale du prix Jean Amila Mecquer. En 2015, c'était La Condition Pavillonnaire, et en 2019, 3 fois, La Fin du Monde. Alors cette fois, c'est la bonne, avec 5 mains coupées, Sophie Divry, dans un registre complètement différent. Mais nous y reviendrons sur ce livre et cette approche différente. Mais quel ressenti, Sophie Divry, à l'annonce de ce prix Amila Mecquer pour 5 mains coupées ?
Ah ben, j'étais très contente. Ben, un prix, ça fait toujours plaisir, parce que j'en ai pas eu beaucoup jusqu'ici. Donc, je m'y attendais pas, parce que comme vous avez dit, j'ai sorti Curiosity, un petit livre de fiction beaucoup très poétique et puis très un peu farfelu. Et mon actualité était plutôt là-dessus. Et puis, du coup, j'étais très contente. Ça me fait bien plaisir, parce que c'est pas un livre collectif. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui fais le travail. Mais je fais entendre des voix, donc des voix des mutilés, des manifestations des Gilets jaunes. Et du coup, je suis contente aussi pour ces gens-là qui n'ont pas eu droit trop à la parole. Et ça donne au livre un nouvel élan. Et pour ça, bah, j'en suis très contente, j'en suis très fière. Ouais, c'était vraiment une très bonne journée quand j'ai appris ça.
Et Jean Mecker, alias Jean Amila, pour ses publications Série Noire, c'est un auteur, un écrivain qui peut être une source d'inspiration pour vous.
Moi, je ne le connaissais pas, donc, comme beaucoup de prix d'auteurs comme ça. C'est des fois l'occasion de découvrir des noms qu'on ne connaît pas forcément. Moi, je ne suis pas très polar à la base, dans mon noir. Du coup, je vais me pencher là-dessus.
Oui, alors donc, je vous conseille le côté littérature blanche, entre guillemets, hein, de Jean Mecker, son livre de référence, Les Coups, que l'on trouve très, très facilement en poche, en folio. Donc nous en reparlerons peut-être à l'automne, si nous avons l'occasion de nous recroiser ici sur Arras. Venons-en donc maintenant à 5 mains coupées. Je pense qu'on a déjà évoqué hein, le type de livre qui est en fin de compte un collage de témoignages, les témoignages de 5 personnes, des 5 qui ont perdu une main lors des manifestations des Gilets jaunes entre novembre 2018 et février 2019. Gabriel, 22 ans, Sébastien, 30 ans, Antoine, 27 ans, Frédéric, 36 ans et Yann, 53 ans. Donc, vous l'avez expliqué, vous avez recueilli ces témoignages et puis vous en avez fait un livre. Je parlais de collage, mais on peut parler de collage littéraire. En tout cas, comment vous est venue l'idée de ce livre? Quelle ambition aussi avez-vous avec ce livre?
L'idée du livre, il m'est venue à la fois formellement et politiquement. J'entendais que des manifestants avaient la main arrachée par une grenade pendant les manifs des Gilets jaunes. Ça me semblait monstrueux et puis on passait vite à autre chose. Donc je voulais m'arrêter déjà sur cet événement, prendre le temps de considérer ce que ça voulait dire pour eux et pour nous. Et puis l'idée que, en fait, même s'il y avait plusieurs mutilés de cette nature-là, ils avaient sans doute à peu près le même récit raconté, quoi, les manifestations qui dégénèrent, et puis toutes les conséquences de perdre un membre, et de vivre avec, enfin, plutôt de vivre sans. Et du coup, j'ai eu l'idée dès le départ, donc c'est, d'une certaine manière, c'est un livre facile à faire, très pénible à travailler, mais en même temps facile à faire, donc je voulais faire ça, c'est-à-dire monter un chœur avec 5 voix qui racontent à peu près la même chose, mais que chacun ayant un caractère et une histoire différente, ça fasse comme un kaléidoscope, mais qui raconte une seule histoire, c'est-à-dire je suis allé manifester pour l'augmentation du SMIC, j'ai une grenade qui m'est arrivée dessus, et je l'ai pris sur la main, je me suis approché trop près, et ma main a été emportée, et après, du coup, maintenant, toute ma vie est brisée. Et du coup, ça m'est venu à la fin de la séquence des Gilets jaunes, vers le printemps 2019. Et quand j'ai vu qu'aucun journaliste aussi n'était allé voir les 5 mutilés de la main et n'avait fait le suivi, en fait, que je trouve que c'était quelque chose qui n'était pas considéré à la hauteur de historiquement ce que ça voulait dire, cette répression, je me suis dit que je pouvais faire ça. Mais du coup, c'était vraiment recueillir leurs paroles et puis la faire vraiment un livre qui était un livre de montage. Bon, c'est pas nouveau, hein. C'est du montage, du collage, absolument. Ouais. Où c'est pas moi qui écris, en fait, c'est leur parole qui est mise en forme. Donc il y a un travail, évidemment, il y a un travail de récit, de dramaturgie, on va dire, avec le début, après les flashbacks, savoir qui c'est, puis qu'est-ce qui se passe après. Hein. Mais c'est tout ça. Et voilà. Et tant que c'est pas moi qui écris le livre, en fait, c'est pas mes phrases. Voilà. Mais bon, après j'ai fait une postface pour expliquer la démarche et aussi le contexte et puis ce que j'en pensais. Mais l'essentiel du livre, donc, ce sont leurs mots, ce ne sont pas les miens. Donc c'est en effet un recueil de paroles, et de paroles en effet ouvrières, ou principalement, mais sinon, qui est étudiant dans l'animation socioculturelle. Mais là, mais c'est une classe, en effet, c'est des classes sociales qu'on n'entend pas souvent, quoi.
Alors, oui, donc, d'ailleurs, il est dit en quatrième de couverture, là, dans ce livre, pas une phrase née de Sophie d'Ivry, donc on a bien compris. Mais est-ce que, quand même, vous avez le sentiment d'avoir écrit ce livre?
Oui, j'ai simplement l'avoir écrit, j'ai assez écrit. Parce que bon, après, j'ai simplement d'être allé le chercher, déjà, disons que aller prendre rendez-vous avec ces 5 hommes que je connaissais pas, donc je suis pas de ce milieu-là, c'était un peu intimidant, mais bon, en effet, comme j'étais formée dans une bonne école, je sais prendre rendez-vous avec des gens, les téléphoner, et puis ils étaient quand même plutôt contents, une fois la glace brisée, qu'on parle d'eux, quoi. aller les voir, faire une grille d'entretien, leur poser à peu près à tous la même question, ne rien oublier pour être, avoir le matériau qu'on veut. Et, mais après, quand j'ai eu les 5 textes validés, parce que j'ai fait vraiment en sorte qu'ils soient vraiment d'accord avec ce que je disais, ce qu'eux disaient, dans le sens où là, j'ai retranscrit l'interview que j'ai enregistrée, puis j'aurais demandé de valider après les 15 pages ou 20 pages d'entretien, chacun, en faisant des allers-retours, des fois par la poste, des fois par mail et tout. Et après, oui, j'ai eu la sensation de l'écrire, évidemment, parce qu'il fallait quand même monter ce collage, qui fait qu'en effet, dans le premier paragraphe, ça commence par « je m'appelle Gabriel, je m'appelle Antoine, je m'appelle Sébastien, je m'appelle Frédéric ». Et donc, ça envoie quelque chose de bizarre au lecteur, qui entend plusieurs voix. Et en même temps, il faut quand même qu'il y ait un seul récit. Et qu'à la fin, moi, ce qui me plaît, c'est quand on me dit, j'ai l'impression qu'il y avait une seule personne qui me parlait, même si de temps en temps, on sent qu'il y a des contradictions, ou il y a des contradictions flagrantes. Il y a des gens qui vont... Je vois un psy, je ne vois pas de psy, je vois un psy 2 fois par semaine, j'ai arrêté de voir un psy. Voilà. Et de temps en temps, je mets des contradictions fortes comme ça. Mais des fois, on peut oublier que c'est 5 personnes qui racontent une histoire et que c'en est une seule. Parce qu'au fond, je pense que c'est une histoire commune. Mais du coup, là, il y a eu du travail, oui. Puis il fallait quand même pas que ce soit trop long parce qu'il y a aussi beaucoup de détails à enlever, malheureusement. Et puis il y avait quand même une question de rythme aussi parce que c'est pas si... après bon là c'est quelque chose de difficile hein. c'est une histoire vraie, c'est du sang, c'est de la répression policière et moi je suis pas enfin je suis quelqu'un d'assez sensible hein. Je suis pas capable de regarder des vidéos YouTube de violence et tout ça, donc j'ai fait en sorte aussi que ça soit relativement soutenable, même si c'est évidemment insupportable de se rendre compte de ce qu'on a fait à ces gens, à ces Français là. Mais il y avait tout ça à équilibrer, voilà. Donc oui, il y a des scènes que j'ai beaucoup écrites. C'est très théâtral, hein. C'est aussi très rythmique. Comment oui. ça s'entend. Mmh. Donc il y a du travail évidemment de montage, d'écriture, voilà. Comme chef d'orchestre.
Voilà. On n'en doute pas. Hein. Je pense que les membres du jury du prix Amélie Améquer n'en ont pas douté une seule seconde. Mais c'est vrai qu'on peut évoquer la notion de collage, mais c'est même plus qu'un collage littéraire. Alors c'est vrai qu'il y a à la fois le travail journal. Journalistique, recueil de témoignages, et puis ce travail littéraire, puisque ces témoignages ne sont pas restitués de manière brute, linéaire et chronologique. Et d'ailleurs, ça désarçonne. Peut-être avez-vous eu des retours hein, de lecteurs au début du livre. On s'y perd un peu et il faut attendre quelques lignes, quelques pages avant de comprendre votre mode d'emploi.
Je serais contente aussi du prix pour ça, c'est parce qu'en effet, c'est un texte qui a été difficile à présenter dans une certaine mesure, parce que la littérature a tendance à se rabattre entièrement sur le roman, et bon, moi, par ailleurs, je défends le roman, hein, comme puissance d'imagination, de fiction. Mais là, c'est pas de la fiction, mais c'est pas non plus de la non-fiction totale, dans le sens, c'est pas un essai argumentatif. Voilà, c'est pas un documentaire pur, un document pur journalistique. Donc, c'est bien, il y a bien un geste littéraire. Donc c'est bien de la littérature, mais ce n'est pas du roman, ce n'est pas une histoire. Voilà. Et donc c'est du théâtre, en fait, du théâtre politique, c'est un récit à partir de faits réels, mais il y a un vrai geste littéraire. Et pour ça, je suis très contente aussi du prix, parce que justement tout ce travail-là, qui est quand même mon travail original, mon travail personnel, qui a été reconnu par un prix qui d'habitude le donne à des récits de fiction, ben, ça me fait plaisir, parce qu'en effet, c'est ça pour moi qui faisait la différence avec un travail... journalistique, d'information pure. Il y a, pour moi, je cherchais dans cette mise en forme à rapprocher, à émouvoir différemment quoi, qu'un journaliste.
Ouais, effectivement, hein, je pense qu'au niveau du jury, il n'y a pas de doute, il y a bien un travail littéraire et qui donne à ce livre d'ailleurs une puissance évocatrice très subtile de la problématique de l'engagement personnel et collectif, parce qu'il s'agit aussi de cela en fin de compte. Hein, vous évoquez ces 5 parcours, hein, il faut quand même le signaler, ce ne sont pas ni des voyous, ni des casseurs, ni même des provocateurs. Un seul avait une expérience, une certaine expérience des manifestations, c'était un syndicaliste, mais les autres, pour certains, ils découvraient, c'était leur première manif, et donc voilà, ils se retrouvent embarqués dans ces conséquences hein, suite à une manifestation qui pouvait paraître complètement bénigne.
On a 5 parcours, donc c'est 5 hommes assez jeunes, hein, plus jeunes à 21 ans, c'est tragique. Et c'est la classe, c'est plutôt des gens de classe ouvrière stabilisée, c'est-à-dire c'est un compagnon du devoir, donc il y a quelqu'un qui a marre des bateaux, on la manœuvre, des gens qui ont bac pro, qui sont insérés socialement, qui ont des enfants. Le syndicaliste, c'est le plus âgé, mais c'est quelqu'un qui est très structuré syndicalement. Et alors, où c'était lui, par exemple, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. quand il était à l'hôpital, d'ailleurs, il y avait peut-être 200 personnes de son entreprise et de son syndicat qui sont venus le voir tellement il était inséré, tellement il était connu, sympathique. Donc vraiment rien de black bloc. Et les autres étaient des gens qui n'avaient jamais manifesté avant les Gilets jaunes. Quelques-uns étaient alors, plusieurs, c'était pas leur première manif, mais il y en a deux, en effet, c'était leur première manif depuis peut-être 10-15 ans, quoi. Et ça dégénère et ils se rendent pas compte que, en fait, c'est pas une question de gaz lacrymogène. On était les Gilets jaunes étaient devenus des proies qu'il fallait terroriser ou mutiler. Et du coup, il bascule dans quelque chose qui est inconcevable, quoi, et qui est toujours difficilement concevable, même pour nous. C'est-à-dire qu'en effet, avec une main, on ne peut plus s'habiller correctement, on ne peut plus travailler, on ne peut plus éduquer même ses enfants pareillement, on ne peut plus conduire pendant très longtemps. Et du coup, la vie est ravagée, quoi. Alors qu'ils ne comprennent pas, pendant très longtemps, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il faut faire le deuil de sa main, il faut changer de vie, il faut changer d'image de soi-même. On devient handicapé, enfin pour ces hommes ouvriers comme ça de 30 ans, c'est une brutalité incommensurable. Et personne n'a jamais voté pour qu'on punisse des manifestants en leur coupant la main, hein. On n'est pas en Arabie Saoudite. Donc il y a quelque chose d'incompréhensible et d'une violence, et puis le choc, quoi. La scène où ils sont arrachés la main à la grenade, bon, c'est vrai que chaque fois que j'essaie de l'écrire avec ce montage, excusez-moi, mais c'était vraiment de la charpie, quoi. Et après, il y a eu des yeux crevés, tout ça. Et ce moment-là, en fait, historiquement, on l'a vécu tous sur les Gilets jaunes. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, c'était intéressant. Mais je crois qu'on ne s'est pas rendu compte aussi que historiquement, ça restera aussi comme un moment de montée de répression sur le corps social, de matage, en fait, de ces corps qui voulaient réclamer de la justice. Comme c'est aussi important, en fait, la répression policière, elle est aussi importante que la revendication des Gilets jaunes. Historiquement, c'est deux phénomènes, en fait, qui s'inscrivent, mais bien sûr, pas dans le même sens, dans l'histoire de France, quoi. Et du coup, comme par hasard, quand je fais un bouquin à partir des Gilets jaunes, en fait, ça parle de cette répression-là. Mais il y a aussi des moments, en effet, assez beaux, où ils expliquent qu'ils se sont politisés, qu'ils ont envie d'y aller, qu'ils se sont reconnus. Alors qu'au début, personne ne voulait vraiment se reconnaître gilet jaune.
Dans la postface, hein, que vous signez, là, ce sont vos mots, hein, pour expliquer la démarche, puis recontextualiser aussi. Vous expliquez la France a vécu non seulement un mouvement social historique à ce moment-là, mais une répression de masse. Officiellement, 2500 blessés, 12 000 arrestations, 314 personnes atteintes à la tête par un flashball, dont 24 personnes ayant perdu un œil. Madame Redouane tuée des suites d'une grenade lacrymogène tirée vers sa fenêtre, et donc 5 mains coupées. Vous avez choisi de porter la focale sur ces 5 mains coupées.
Oui, alors il y a un moment donné, à la base c'était ça, il y a un moment donné j'hésitais à faire un bouquin qui aurait pu avoir un titre un peu monstrueux, si le 3 mains, 5 œils, 5 yeux, ouais. Et puis 2 jambes, parce que j'ai rencontré les mutilés pour l'exemple, et j'ai vu aussi beaucoup plus de choses que ce qu'il y a dans le livre, hein. Mais j'ai réussi à voir les 5 mutilés de la main, et comme il n'y en a que 5, a priori, en tout cas, qui se sont signalés, vraiment, du coup, il y a eu, je les ai tous, voilà. Et ça reste sur la main, qui est quand même quelque chose aussi que peut-être moi, en tant qu'écrivain, ça me touche particulièrement. Mais enfin, qui ça ne toucherait pas de la main? C'est quand même une partie de notre cerveau qui est comme l'œil, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Du coup, on reste sur une seule problématique du handicap. Et il s'est passé aussi quelque chose d'assez chouette, c'est que moi, je suis allée voir les gens donc à Tours, au Mans, à Argenteuil, ils étaient assez loin chaque fois de chez moi. Et le 5e, il a été convaincu par le 4e de témoigner en disant, voilà, comme ça, on y est tous les 5, c'est notre livre aussi un peu à nous. Et ça m'a touché aussi que voilà, il y a un qui s'est rencontré avec un autre grâce à mon intermède, et du coup c'est un livre, voilà, sur cette problématique là parce que puis malheureusement, je sais pas, peut-être que c'est un détail, mais on crève des yeux depuis une dizaine d'années en France. Jamais autant que dans les Gilets jaunes, mais couper des mains, c'est quand même il y en a eu des doigts arrachés, des orteils arrachés, excusez-nous, mais c'est vrai que c'est assez sordide, mais c'est ça, hein, à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure. Mais là, 5 mains coupées comme ça en quelques mois, et puis à chaque samedi qui recommence, en fait, c'est vraiment quand même un cap qu'on n'avait pas passé, quoi. Et du coup, voilà, j'ai ces 5 personnes-là, et ça fait, ils sont de différentes régions, ils n'ont pas le même âge, mais ils donnent un bon portrait, au fond, tous les 5 à la fin. C'est pour ça que j'ai fait la postface aussi, c'est pour dire un peu qui est qui, que le puzzle soit un peu plus lisible à la fin. Ça donne un bon portrait aussi de qui sont les Gilets jaunes, voilà. Et donc pour moi, c'est un bouquin aussi qui pourrait rester même comme document historique, après, de qui est la classe ouvrière en France à cette époque-là, d'une certaine manière, enfin, je sais pas, j'espère.
Je pense, effectivement. Et aussi, quelque part, en fin de compte, c'est sans doute une bonne clé pour aborder la question de l'interaction entre le vécu individuel, ses conséquences dramatiques pour certains, et la réalité d'une expression collective. Parce que, bon, il y a des milliers, des millions de personnes qui ont manifesté, qui rentrent le soir, qui écoutent les informations, qui entendent, un manifestant a perdu une main, et puis bon, c'est tout, ça passe. Et ce livre permet quand même de créer le lien, alors qu'on imagine ce que ressent parmi tous ces manifestants qui se retrouvent dans cette situation. Et vous réussissez, en fin de compte, à créer un collectif de ce point de vue-là.
Oui, après, c'est un peu l'illusion de la littérature, d'arriver à créer un collectif à partir de 5 personnes qui sont quand même éparpillées en France et qui n'ont pas tous le même rapport, qui n'ont pas fait le même deuil de la même manière. Voilà. Mais ça permet en effet de rassembler ce qui... Ils ont été démembrés d'une certaine manière. Ils faisaient corps un peu ensemble parce qu'ils participaient tous à un même mouvement. Qui, s'il avait été plus victorieux ou plus paisiblement accueilli, aurait peut-être pu se rencontrer dans un contexte plus pacifique, plus politique. Mmh. Et là, en fait, ils ont été renvoyés chacun chez eux, avec leurs mains, leurs problèmes très concrets, de tous les papiers qu'il y a à remplir pour l'assurance, pour la banque, pour le travail. Et du coup, là, ça les rassemble dans cette galère, quoi.
Ouais, on a un peu le sentiment même qu'il y a une double injustice, enfin un ressenti d'une double injustice. Bon, déjà celle, bien sûr, d'être victime de cette violence policière gratuite, mais en plus, c'est celle d'être celui qui est cette victime parmi tous ces manifestants. Pourquoi moi ?
Oui, ben ça c'est toujours très difficile hein, quand on a un accident comme ça, que ça reste un accident pour le thème générique, de dire voilà, à ce moment-là, on était des centaines. Au milieu des lacrymos, et puis tout à coup, pourquoi ce rouleau, ce tube, il est arrivé sur moi, quoi. Parce que on sait bien que c'est lancé un peu n'importe comment, donc c'est des grenades extrêmement dangereuses, avec de la TNT qui sont jetées de manière complètement inconsidérée, parce que c'est des armes de guerre, c'est pas des armes pour traiter sa propre population. Mais il n'empêche que ça tombe bien sur un corps à ce moment-là. Et il y a tous après les reproches qui se font, pourquoi j'y suis allée, pourquoi je ne suis pas rentrée une heure plus tôt. Et puis je pense que c'est en effet, comme ils n'ont aucune excuse de la part de la préfecture, ils n'ont aucune justice à attendre, parce que même en 77, Vital Michalon qui a été tué par une grenade, l'État l'a jamais reconnu. Là, Rémi Fraisse, pareil, ça a fini en non-lieu. Donc même s'ils sont très courageux et ils vont embêter l'État jusqu'à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de mettre l'État face à sa barbarie, le fait qu'on leur fasse pas justice et qu'on leur dise en gros c'est vous le problème, on n'est même pas sûr que ce soit pas vous qui l'ayez pris dans la main, et puis ça rajoute une blessure, c'est difficile du coup. Alors que quelqu'un qui a un accident du travail et qui est reconnu comme accidenté du travail, ben on va pouvoir construire un discours dessus. Là, ils sont victimes d'arbitraire, d'injustice, et en plus, limite, on leur dit, limite, c'est vous le problème, en fait.
Mmh. Oui, puisque pour... je pense que c'est Gabriel. Vous expliquez dans le postface que, bon, que quand vous avez terminé le texte, le sort s'acharnait vraiment contre lui, puisque le remboursement de la prothèse ainsi que l'allocation adulte handicapé lui avait été refusé par l'État.
Oui, là, il y en a un vraiment qui a où on a eu un acharnement médical un peu trop important, je pense, où la chirurgie a voulu vraiment essayer de sauver un maximum, ce qui fait qu'il lui reste deux doigts et demi, on va dire. Du coup, à cause de ça, il n'a pas le droit à toutes les allocations et les prothèses qui, par ailleurs, auraient été utiles. Donc, vous voyez, après, je sais pas, peut-être que dans 15 ans, ce sera mieux, hein, mais du coup, en effet, après, voilà, pour Gabriel, c'est particulièrement tragique, parce que du coup, sa famille assume tout ça. En plus, un enfant de 20 ans qui n'était pas du tout... qui n'était pas du tout là-dedans et qui sa vocation était brisée, quoi. Sa vocation de chaudronnier et compagnon du devoir, c'est quand même pas le gamin du coin de la rue, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui s'investit, qui a une passion, qui est capable de beaucoup travailler. Et tout à coup, on l'empêche, en fait, de se réaliser. Donc, pour la construction d'individus, c'est vraiment tragique. Après, il y en a d'autres sur qui ça s'est mieux passé, mais de manière assez absurde, si on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on leur paye 3 mois de rééducation, 5 jours sur 7, 8 heures par jour avec un taxi qui vient les chercher parce qu'ils ne peuvent plus conduire. On leur paye une prothèse à 10 000 euros avec des choses régulièrement à changer. Et ça, c'est la sécurité sociale. Alors quand ça marche, c'est assez vertueux. Des fois même, il y a la mutuelle. Mais ça coûte énormément d'argent à l'État quand on y pense.
Oui.
Et la main gauche de l'État, comme disait Bourdieu, va réparer ce que la main droite de l'État, c'est-à-dire la police, fait. Mais tout ça, c'est stupide. Parce que même quand ça marche assez bien et que finalement, ils ont la cotorette, enfin là... et la prothèse
l'allocation handicapée.
Voilà, et certains ont des prothèses qui sont assez kiffantes, hein. Sébastien notamment, il a une prothèse assez nouvelle, et puis il essayait de faire des tours en Lego. Bon, évidemment, c'est extrêmement compliqué, et puis c'est très très pénible, c'est très fragile, donc c'est... Mais à ce moment-là, pour eux, c'est très important. La prothèse, c'est un début de reconstruction. Mais même quand ça marche bien, qu'ils n'ont pas trop de frais, sachant qu'ils ont énormément de conséquences dans leur vie, même sans ça, on se dit quel gâchis. C'était des jeunes gens qui pouvaient, au contraire, payer des impôts, travailler, rapporter à la société, vous voyez, qui demandaient qu'à continuer à être des bons travailleurs, qui sont des gens souvent, vraiment qui travaillent énormément, en fait. Comme beaucoup de gens dans la classe ouvrière, le travail, c'est très important, c'est une valeur. Et là, ils ne peuvent plus travailler, donc ils deviennent assistés. Alors, sur 3 ou 4 fois sur 5, ça a bien marché. Mais ça n'empêche, c'est quand même un sacré gâchis, parce que ça finit par coûter très cher à la société française, alors qu'ils auraient dû rester mener leur vie normalement. Et puis il y en a un, en effet, où je ne comprends pas, Gabriel, qui n'a droit à rien parce qu'il est chez ses parents et devrait être à la rue s'il voulait avoir une allocation. Quoi. Enfin, c'est encore des soucis pour eux et encore de l'injustice et une humiliation de la violence administrative, en plus de la violence judiciaire, évidemment.
Alors, ce livre a bien sûr une fin, mais et à vous écouter d'ailleurs, on a le sentiment que vous restez toujours en contact avec ces cinq mutilés. Et est-ce qu'on peut imaginer que, il puisse y avoir un prolongement, enfin une suite, un accompagnement, même littéraire, donc de ces cinq parcours de vie vraiment marqués par le destin?
Alors, je ne suis pas en contact régulièrement avec tous les cinq, hein, chacun a fait sa vie, puis il y en a certains qui sont aussi très résilients, comme on dit à la mode, et qui continuent, enfin, qui ne sont pas forcément aussi tout le temps d'en vouloir répéter et ressasser. J'essaie en contact un petit peu encore avec la famille de Gabriel, parce que c'est elle aussi qui a le plus besoin de soutien. Mais certains ont repris le travail. Il y en a un, à Bordeaux, ce n'est pas un secret, c'est le plus politisé qui est devenu élu d'opposition au conseil municipal de Bordeaux. Donc là, c'est assez fort parce que c'est quand même une ville très bourgeoise. Donc il est là avec sa main coupée au milieu des élus de la mairie. Les gens voient ce que ça fait de couper les mains aux jeunes gens. Mais alors, au niveau des suites, pour l'instant, au niveau du livre, non, il n'y aura pas un livre 2, mais il y a une pièce de théâtre qui essaye de se monter à partir de ça et qui, en effet, elle, reprendra après, quoi, dans le sens... sera plutôt ou dans le procès ou dans la reconstruction traumatologique, pour pas répéter, en effet. Et donc ça, c'est un projet qu'on est en train de monter avec Olivier Coulon-Jalbonca, qui a rencontré lui aussi, du coup, tour à tour, tout le monde. Et a priori, ça se fera, évidemment, quand la perspective de faire du théâtre sera à nouveau possible. Mais ça sera quelque chose de très intéressant, et en effet, de continuer, en savoir qu'est-ce que ça veut dire, non pas après un an, comme moi je les ai vus après un an, mais après 2-3 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour eux comme pour nous, voilà. Et qu'on les oublie pas, quoi. C'était leur désir.
C'est ça, oui. Et vous dites donc qu'il y a des procès en cours, c'est ça?
Il y a des dates de procès régulièrement. Enfin, je crois que c'est Antoine Boudinet qui a eu un procès où il y a évidemment eu un classement, enfin, sans suite. Tout a été classé sans suite au premier instant. Donc maintenant, c'est en civil, c'est plus au pénal. Mais au civil aussi, il faut pouvoir se porter civil, donc ça coûte de l'argent. Et donc, c'est des procès de longue haleine. On sait très bien, moi, je ne suis pas spécialiste. Et j'ai découvert que même eux étaient... débordés, et c'est des gens qui a les codes pour ça, même le vocabulaire, tout est compliqué. Mais on peut être sûr qu'il y aura régulièrement des dates juridiques. Mais ça, il y en a pour très longtemps, et ça finira sans doute au niveau européen.
Voilà. Alors, justement aussi, un mot sur le titre, le mot, vous parlez de mains coupées, mais en réalité, ce sont des mains arrachées, Sophie d'Ivry. Est-ce qu'on peut voir dans votre titre la référence à... une œuvre célèbre de la littérature française du début du XXe siècle, La main coupée de Blaise Cendrars.
Non, Alors ça, je ne connaissais pas. En tout cas, je ne connaissais pas consciemment, parce que des fois, le titre reste dans l'inconscient. Après, ces 5 mains arrachées, ça sonnait moins bien. Ils ont quand même tous fini le soir même, en général, le lendemain, à l'hôpital. Et là, il y a bien un chirurgien qui leur a coupé la main. D'ailleurs, les chirurgiens n'ont pas forcément vécu des... Enfin, j'ai vu, après, en retravaillant sur la question, il y a beaucoup de gens à l'hôpital qui avaient fait aussi des tribunes ou signalé qu'ils soignaient des plaies, ils soignaient des blessures que d'habitude étaient des blessures de guerre. Et ils ont été assez traumatisés. Et donc, ceux qui ont été coupés, il y en a deux, on leur a coupé vraiment jusqu'au moignon. Ce qui fait que ça a été beaucoup plus rapide en quelque sorte après pour eux, parce qu'il n'y avait plus aucune question de réparer et réparer. Donc il y a bien eu, le soir même, il faut bien couper ce qui reste, quoi, voilà. Mais en tant que tel, de toute façon, les mots pour dire ça sont toujours difficiles, quoi. Eux, ils disent, ils m'ont pris ma main, voilà, on leur a pris leur main, quoi.
Mais bon, parce que Blaise Cendrars, bon, c'est aussi une histoire vécue. Hein. Il a perdu sa main pendant la Première Guerre mondiale et voilà, il revient là-dessus. Et c'est vrai que bon, voilà, blessure de guerre, hein, c'est ce que vous évoquiez. Il y a forcément un parallèle. Alors, je pensais qu'il y avait quand même une référence à Blaise Cendrars.
Pas consciemment, non. Même si eux, en effet, se disent blessés de guerre, enfin, disons, ils se disent gueule cassée, ça y est. Leur terme, ouais. Surtout ceux qui sont montés en association par rapport aux yeux, aux mains et puis à d'autres blessures importantes, notamment par les flashballs et les grenades Lias-4 qui laissent de la TNT dans la peau, c'est très compliqué. Ils se disent nous sommes des gueules cassées. Et du coup, on dit oui, c'est exagéré de dire ça par rapport à la guerre, mais eux le disent, quoi. Et c'est eux les victimes. Donc je pense que s'ils le disent, on peut pas contester ce qu'ils ressentent, quoi. Ils ressentent qu'ils ont été marqués par une violence dans un conflit. Voilà. Et que du coup, et après, ils vivent entre eux, parce qu'ils sont des centaines, en effet. Et c'est mieux, en effet, qu'ils se parlent et qu'ils font des associations, hein, parce qu'ils ont un traumatisme particulier. Eux, ils se sentent comme faisant partie d'une collectivité qui a été traumatisée et qui le sent corporellement, qui toute sa vie le portera dans son corps. Et du coup, c'est leur terme de s'appeler régulièrement des gueules cassées. Voilà.
Alors, Sophie Divry, 5 mains coupées, c'est aux éditions du Seuil, alors que, bon, jusqu'à présent, vous êtes très fidèle aux éditions pour vos romans, hein, vos précédents livres, sauf le tout premier, mais vous êtes fidèle aux éditions Notabilia. C'est parce qu'il y a vraiment une différence de livres que donc vous êtes passé chez un autre éditeur ou vous avez souhaité être édité ailleurs?
En fait, c'est parce que moi, j'étais en train d'écrire le bouquin qui est sorti après, là, Curiosity. Et vraiment, à cause des événements politiques, ce livre, ce projet m'a interrompu, a pris de la place. Vraiment, j'arrivais à peu près à faire les deux à la fois. Mais du coup, pour moi, c'était beaucoup plus simple intellectuellement d'avoir deux éditeurs différents. En plus, ça sortait, en fait, c'était pas la même ligne de cerveau, quoi, en quelque sorte. Donc, ça me permet d'avoir deux institutions différentes. Mais en effet, pour moi, la fiction sera toujours, enfin, pour des raisons que je parle de Notabilia. Mais du coup, ça permettait de mettre ça au Seuil, ce qui a aussi une vague image d'éditeur de gauche et qui permettait aussi de s'inscrire dans une certaine tradition éditoriale qui était un peu plus cohérente. Mais c'est surtout pour... Pour pas mélanger en tout cas.
Pour vous, en fin de compte, pour votre travail d'écriture.
Voilà. Ouais. Parce que j'étais vraiment prise, moi aussi, comme beaucoup de gens dans cette période-là, arrachée à mon ordinaire pour m'intéresser à un problème politique que j'aurais pu aussi laisser passer sans regarder. Mais c'était difficile pour moi, en effet, de rester spectatrice, quoi.
Alors, ce matin, Sophie Divry, j'ai pensé à vous en écoutant les informations. Alors, on enregistre cette rencontre un peu avant le 1er mai. Ouais, j'ai pensé à vous parce qu'on annonce en effet le premier vol d'un hélicoptère miniature sur Mars. Et j'ai l'impression que vous y êtes allée sur Mars, Sophie Divry.
Ah oui, je vous parlais de mon... Oui, on change de sujet, mais en effet, oui, j'ai entendu aussi que Ingenuity allait voler sur Mars à partir du robot Perseverance. Oui. Ben, j'y suis allée, disons que pour mon livre d'après, j'avais commencé avant d'ailleurs, mais j'ai beaucoup travaillé sur Mars et du coup, j'ai rencontré des gens au CNES, j'ai beaucoup regardé des vidéos, de photos, d'informations, ce qui fait que, j'ai l'impression de bien connaître maintenant la planète.
Et vous savez, quand on lit, on a l'impression d'y être sur Mars, vraiment.
Alors, hein, parce que c'est dangereux.
Ouais, C'est bon, ça donne pas envie, hein, bien sûr, mais vraiment, voilà. Alors c'est l'histoire de rapidement, hein, puisque bon, l'objet quand même c'est 5 mains coupées, le prix Amelia Maker, mais c'est l'histoire d'un robot qui ne veut pas mourir, un robot qui est envoyé sur Mars et ouais, voilà. Et donc, un robot qui considère qu'il a été doté d'imagination, de sociabilité, et qui se retrouve là vraiment tout seul. Et à un moment, ce robot, il dit, en fin de compte, c'est un robot qui écrit et qui se confesse, et il dit « Je ne veux pas obéir, mais je ne peux me révolter. » Est-ce que ce n'est pas un peu le constat que l'on pourrait tirer de 5 mains coupées, Sophie Livry ?
Non, parce que je pense que le 5 mains coupées, c'est plutôt on a toujours raison de se révolter, mais ils vont nous le faire payer. Voilà. Mais moi, par exemple, je vois, je leur ai posé la question après aux 5, s'ils étaient à refaire, ils le referaient d'une certaine manière. Et alors, ils préféraient tous récupérer leurs mains. Hein.
Bien sûr.
Mais donc, certains, la plupart, sont allés à nouveau manifester. Enfin, si ça s'est présenté, au bout d'un moment. Alors, avec évidemment, dès qu'il y a un gaz lacrymo, il se casse tout de suite, même si ça ne va pas forcément dégénérer. Mais ils sont sans haine, je trouve. Je trouvais sans haine, avec beaucoup de colère, mais sans haine, et déterminés en disant on avait raison. Et c'est bien la preuve qu'on avait raison, puisque vu ce qu'ils nous ont mis sur la gueule, c'est que ce qu'on disait était insupportable pour eux. Voilà. La leçon plutôt de 5 mains coupées, c'est en fait quand on dérange vraiment, ben on nous frappe très fort, quoi, comme pendant la Commune. Voilà. Après, je pense que le côté je ne veux pas obéir, mais je ne peux que me soumettre, c'est plutôt une métaphore en général du travail d'écriture, c'est-à-dire que c'est très difficile. Enfin, il faut bien se soumettre aux injonctions de Dieu ou de l'inspiration ou de l'art, voilà, parce que ce petit robot a un petit côté artiste, ce petit curiosity sur Mars qui veut pas mourir et qui fait des recherches tout seul dans son coin, et un petit peu une métaphore de l'artiste tout seul dans sa planète ou aussi de notre condition humaine, quoi. C'est-à-dire, au fond, pourquoi ici, pourquoi sur cette planète, est-ce que ça sert à quelque chose ce que je fais,
voilà. Voilà, bah écoutez, Sophie Livry, merci beaucoup. Alors déjà, merci beaucoup pour ce 5 mains coupées aux éditions du Seuil, prix Jean-Amila Mecker 2021. Espérons que nous pourrons nous croiser, que vous pourrez croiser les lectrices, les lecteurs de l'Art à Joie, de ce prix à l'automne. Et puis donc, signalons ce dernier, alors un court roman, Curiosity, donc chez Notabilia, avec cette aventure martienne. Voilà, merci beaucoup, Sophie Livry.
Merci à vous, merci pour ce prix, et puis merci pour le temps que vous me consacrez.